Wesh, salut à tous.
Salut.
Comment ça va, Valentin?
Ça va et toi?
Bah écoute, je suis très, très heureux de faire ce cinquième ou sixième point sur la table.
Cinquième
point sur la table, ouais. Avec toi, avec vous. On espère que ça va être aussi intéressant que les autres points sur la table précédents. Donc écoutez bien.
Écoutez bien, ouais, c'est parti.
Et vas-y. Non, mais du coup, en fait, j'avais une question parce que j'y repensais. Qui, à l'origine, en fait, entre toi et moi, qui a eu l'idée de faire un podcast? Je m'en rappelle même plus.
Bah, on en a parlé avant, je pense que c'est toi. Je crois que c'est toi.
Ouais. D'accord.
Je te dis, moi, j'ai pas assez confiance en moi pour te demander. Tu m'aurais rayonné, j'aurais eu trop peur. Je sais pas, je crois que ça vient de toi, hein, si je dis pas de bêtises.
Mais est-ce que toi, toi, c'était un truc qui quand même te trottait dans la tête ou. À la base
Ouais, un peu. Enfin, un podcast, faire un podcast comme on le fait là, j'avais pas forcément pensé, pas que c'était possible ou quoi, c'est possible, mais je l'avais pas forcément visualisé. Mais j'avais quand même en tête l'idée d'un truc où tu peux, genre, avec un micro ou je sais pas quoi, aller faire, je sais pas, des interviews de mecs à droite à gauche et puis les compiler quelque part et puis les mettre sur internet. J'ai un peu ce truc là, donc peut-être qu'on le fera un jour d'ailleurs, hein, avec point sur la table.
On a quelques idées là-dessus.
Ouais, donc voilà, mais ouais, après j'étais toujours quand même intéressé par l'idée de faire un truc comme ça, mais après la concrétisation ça vient de toi.
D'accord.
T'as réalisé mes rêves.
C'est ça, bah je t'en prie.
Merci beaucoup.
De rien. Mais ouais, mais c'est vrai que c'est marrant parce que depuis le temps où j'écoute, ça fait pas si longtemps que ça que j'écoute des podcasts.
Ouais.
Moi en général, je suis toujours assez en retard sur tout ce qui est nouvelle tendance, que ce soit technologie ou communication. Enfin bref, à chaque fois, moi j'ai toujours 5 trains de retard. Mais à partir du moment où je me suis mis à écouter des podcasts, j'étais assez séduit par le format.
Ouais.
Le fait que ça t'autorise une liberté totale et que tu puisses faire absolument ce que tu veux sur n'importe quoi, c'est quand même assez cool.
Carrément.
D'autant plus que moi comme toi d'ailleurs, on a des centres d'intérêt qui peuvent être assez obscurs pour certains.
Ouais.
Donc c'est quand même cool de pouvoir écouter d'autres gens parler de ça et de le faire bien, quoi.
Ah bah d'ailleurs, j'ai envie de te demander parce que bon, on a rien préparé, hein. Bon, à chaque fois le podcast,
comme d'habitude,
sans secret, c'est juste on allume, on fait play et on parle.
Ouais.
Tiens, voilà, je voulais savoir, qu'est-ce que tu écoutes comme podcast dans l'ensemble, quel type de podcast, est-ce que tu peux parler justement de un peu l'évolution, qu'est-ce que tu écoutais au début, que tu écoutes toujours, que tu écoutes plus, enfin c'est quoi tes centres d'intérêt au niveau de podcast? Peut-être qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés par des trucs qu'ils connaissent pas, quoi.
Alors c'est une bonne question. J'écoute que des podcasts, des podcasters, je sais pas comment t'appelles ça, enfin des podcasts qui sont en anglais, quoi, que ce soit fait chez des anglais ou des américains.
Ouais. T'écoutes que en anglais?
Ouais, c'est un, étant donné que je suis bilingue, c'est un réflexe que j'ai pris. Après
Humble brag.
Pardon?
Humble brag, tu connais pas cette expression?
Non, je sais pas ce que c'est.
Ça veut dire se la raconter, mais de manière humble.
Ah oui, d'accord. Ouais. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est du humble bragging à donf, quoi. Mais après, je suis sûr qu'il y a des très très bons podcasts français dans ce qui nous intéresse, mais j'ai pas pris le temps, effectivement, d'aller chercher de ce côté-là. Mais bref. Le premier podcast que j'ai vraiment écouté et que j'écoute toujours, et je suis sûr qu'il y en a parmi ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, qui écoutent aussi, c'est le podcast de Jorgen Experience.
Ouais.
C'est quand même vachement bien parce que déjà il en sort genre quasiment un par jour.
Ouais,
je crois qu'il est pas loin du millième podcast.
Ouais.
Donc en termes de quantité, on est servi. Et en termes d'invités, enfin c'est très très large, le panel est très large et c'est souvent très intéressant. Que ce soit quand il invite ses potes comiques qui font du stand-up,
ouais.
Des coachs ou des combattants de MMA ou des scientifiques ou des psychanalystes. Enfin c'est, j'ai appris plein de trucs grâce à ça et j'ai dit à un pote à nous, un pote qu'on a en commun qui voit qui est Joe Rogan, je sais pas s'il écoutera son podcast, mais je lui ai dit que son podcast a eu quand même un impact assez bénéfique sur ma vie, car j'ai appris plein de trucs différents et mine de rien, quand t'écoutes plein d'interviews de gens qui ont des trajectoires assez particulières et qui sont même dans un registre différent, des gens qui ont pas peur de s'assumer et qui font les choses qu'ils ont envie de faire,
ouais.
Ça reste toujours assez, c'est une bonne inspiration, quoi.
Carrément, ouais.
Il y a eu ça, et puis après, alors, je sais pas si on peut vraiment parler en termes de podcast, mais il y a pas mal de gens qui font des interviews sur YouTube, leurs propres émissions sur YouTube.
Ouais, ok. Ouais.
On appelle ça des YouTubeurs, mais il y en a certains, en fait, ils s'enregistrent juste en train de parler, ben, ça sur YouTube.
Bon, ouais.
Bref, il y a une certaine nuance là-dedans. Mais, t'en as un, c'est un YouTuber clarinette, c'est un américain qui s'appelle Razor Fist, c'est un métalleux.
Ok, hein, je connais même pas.
C'est un métalleux et c'est très intéressant parce que ce mec a fait des études en sciences politiques.
Okay.
Et donc il a des avis extrêmement tranchés, je pense,
ouais.
très rentre dedans. Donc je pense que ça plairait pas forcément à tout le monde, mais moi ça me parle. Et il fait des vidéos assez courtes sur des sujets de société ou aussi bien sur des sujets musicaux, parce que forcément il y a donf dans la musique, pas
ouais.
Seulement le métal, mais voilà. ou même des sujets sur l'industrie du jeu vidéo. Moi, je suis ce qu'on appelle un casual gamer, je joue de temps à autre, mais c'est une industrie qui est assez intéressante, surtout ces derniers temps. Il y a eu des histoires comme le Gamergate, je sais pas si t'as suivi, mais...
Le terme, ouais, je l'ai vu, mais j'ai pas suivi.
Étant donné que c'est une industrie qui a énormément de succès, ça a forcément un impact dans la société.
C'est quoi, c'était un délire de thunes, non? Genre les mecs qui se rebellaient contre les mecs qui profitent de... C'est pas ça?
Non, c'est pas tout à fait ça. Il y a eu un truc un peu similaire avant ça, où on s'est aperçu qu'en fait, la presse des jeux vidéo était quand même bien corrompue.
D'accord.
Qui a été un peu sponsorisée en tous les sens, donc forcément, ça a impacté un peu les bonnes reviews qu'ils donnaient à certains jeux.
Ouais.
Mais en fait, Gamergate, c'est un peu dur à définir, mais en gros, il y a une espèce de levée de bouclier, parce que il y a tout d'un coup la presse s'est prise de passion sur ce sujet, comme quoi des gamers et des jeux vidéo c'était un truc assez sexiste, assez bas du front.
Ah oui, ok, ça me revient.
Voilà, il y a eu ça, et en fait il y a vraiment une espèce de gros conflit entre une partie de la presse et certaines militantes féministes notamment. Qui balançait énormément sur cette industrie, et les gamers qui maintenant sont extrêmement connectés, qui sont très très présents sur Internet.
Ouais.
Et il y a eu vraiment, enfin, c'était un vrai conflit, c'était assez intéressant à suivre.
Non, bah, maintenant que tu me dis, j'avais pas suivi, mais j'avais regardé, j'avais quand même vu quelques trucs sur des histoires d'accusations sexistes sur les gameuses ou quoi.
C'est ça.
Toi tu sais mieux que moi, quoi, j'ai pas tout suivi.
Ouais. Je conseille d'aller voir ça de ton côté, parce que ça a déclenché plein d'histoires différentes.
Ouais.
C'était un vrai bordel, cette histoire. Mais c'était intéressant. En plus, c'était vraiment intéressant de voir la réaction des gamers, parce que pour moi, dans ma tête, un mec qui se définit comme gamer, c'est un mec qui passe beaucoup de temps devant sa console ou devant son PC.
Ouais.
Et sincèrement, je pensais pas que c'était quelqu'un qui avait une vraie conscience. Pour moi, je pouvais pas empêcher de penser qu'un gamer, c'était un mec qui est pas abruti, mais qui est dans son coin.
Reclus,
mais je me suis aperçu que les gamers, c'était des mecs qui avaient des vraies consciences
politiques,
enfin sociales. Enfin, ça a été il y a eu un vrai impact sur ce truc là, quoi, donc c'était intéressant. Et sinon, donc, pour finir de répondre à ta question, c'est un youtubeur, mais c'est un mec qui fait des sujets, des interviews qui sont assez longues, donc on peut comparer ça à un podcast, hein,
ouais,
dans certains
ouais.
sens, un anglais qui se fait appeler Sargon of Akkad, c'est genre le nom
je connais pas du tout.
Alors, si je dis pas de bêtises, son pseudo, c'est le nom d'un ancien roi ou d'une divinité égyptienne, un truc comme ça, bref. Et il fait beaucoup.
C'est bon, le mec, je l'ai mis dans une case, excuse-moi, mais. Ok, d'accord.
Enfin, bref, voilà. Voilà, donc c'est un mec avec un nom à la con. Non, non, mais. Et il fait beaucoup de sujets, parce que, alors ça, c'est un truc qui m'intéresse aussi, contre le politiquement correct, et ce qu'on appelle aux États-Unis et en Angleterre aussi d'ailleurs, des social justice warriors. Je pense que t'as
un truc contre ça, c'est ça?
Beaucoup de ses vidéos portent sur ce sujet.
D'accord,
quoi.
Ouais.
C'est parce que je pense que c'est un sujet qui est vraiment très important depuis ces dernières années. Et il parle de ça. Moi, c'est un truc, tout ce qui a pour nom social justice warriors, enfin, je trouve que c'est vraiment, enfin, c'est un vrai cancer pour l'humanité. Donc, forcément, moi, ça m'intéresse.
Ouais, ok.
Et
ouais, je connais pas du tout.
Je crois que c'est à peu près tout aussi. J'aime bien aussi, pour finir, un podcast. Alors, j'ai même plus le nom en tête, mais d'un comique américain qui s'appelle Ian Edwards, qui fait un podcast en fait sur le foot.
Ah oui, j'ai parlé de ça.
Ouais, et c'est assez intéressant. Donc voilà.
Ok, d'accord.
Et toi donc?
On a des trucs en commun forcément. Joe Rogan, je le suis pas mal. C'est la variété des sujets, du contenu qui fait que voilà, que ça ouvre plein de portes, plein de centres d'intérêt que tu pensais même pas avoir et tout ça. Il y a ça. Après, les podcasts que j'écoute, il y a une dominance podcast anglais quand même, américain, anglais, donc il y a ça.
C'est parce que t'es bilingue.
C'est parce que je suis bilingue.
Humble brag.
Et beaucoup de trucs. Bah en fait, j'essaie de me souvenir, mais en fait, j'en écoute beaucoup, mais j'écoute pas forcément les mêmes avec la même fréquence. Donc j'ai Joe Rogan, mais là j'ai fait un gros tri quand même dans mes
effectivement, je vois une bonne liste sur ton.
Ouais, j'ai fait un gros tri, puis j'essaie des nouveaux trucs, puis mais j'ai pas forcément le temps d'en écouter autant, parce que en fait avant, vu que je vais au boulot en vélo, avant j'écoutais des podcasts souvent sur le trajet du taf, avec genre un écouteur dans l'oreille et puis l'autre libre pour pouvoir entendre s'il y avait des voitures qui me rentraient dedans.
Ouais.
Mais je me suis dit en fait c'est quand même avec une oreillette c'est un peu dangereux au final de faire ça, donc maintenant j'ai arrêté, j'écoute plus. Et j'ai moins le temps qu'avant, donc j'ai limité mon truc. Et j'ai essayé récemment les podcasts en français, sauf que je trouve pas forcément de podcasts enfin c'est pas forcément mes centres d'intérêt à la base en fait, c'est juste que je me suis dit tiens bah qu'est-ce qui se passe en français quoi. Donc j'ai checké un truc, ça porte sur la tout ce qui est technologie, comment dire, c'est, alors que je trouve le slogan du podcast, ça s'appelle le rendez-vous tech. En gros ce que j'ai fait, j'ai regardé quels étaient les podcasts qui étaient dans le classement, je sais pas, iTunes ou je sais pas quoi. Enfin c'est pas iTunes que j'ai mais un autre truc. Et il y avait ces trucs là et en fait c'est des mecs qui parlent. En gros, leur sujet, c'est la technologie, au sens hyper large. Et ils partent de ce truc-là pour parler un peu de tout, n'importe quoi. Donc, en gros, t'as un présentateur qui fait ça, et il a des invités, dont un mec qui est genre investisseur dans la Silicon Valley, mais un français, quoi, qui est des portes ponctuellement qui vient, d'autres mecs qui sont chroniqueurs, blogueurs sur des sites ou quoi. Et ils parlent de plein de trucs, aussi bien des élections américaines, ils parlent de trucs en France. Et justement, ça m'a fait penser à ça quand tu parlais de Gamergate et le fait que ça révèle plein de... comment dire, plein de centres d'intérêt que les gens justement gamers ou dans la tech ont qu'on pensait pas, enfin que je pensais pas qu'ils aient. Cette phrase a pas trop de sens, mais ouais, et en fait c'est justement ça m'a permis de réaliser qu'il y a plein de gens qui sont justement un peu geeks etc, qui sont ouverts à plein de centres d'intérêt différents. Et le truc auquel je pensais pendant que tu parlais tout à l'heure, c'est que je me rends compte de plus en plus qu'un mec comme Joe Rogan, par exemple, pour ceux qui connaissent pas ce gars-là, c'est un mec un peu hybride, quoi. Il est comique, il fait du stand-up, il est commentateur du UFC, si vous suivez un peu. La plupart des gens, quand même, vous le connaissez, mais il y en a peut-être qui connaissent pas. Commentateur de l'UFC, il fait quoi d'autre, ce mec? Il a fait des émissions de télé,
il a fait des émissions de télé, il a été acteur, ouais. il est ceinture noire du jiu-jitsu brésilien.
Ouais, il a fait du taekwondo aussi.
Il a fait du taekwondo à haut niveau, il a combattu en kickboxing, donc c'est un mec en termes d'arts martiaux qui gère, mais à côté de ça, il y a d'autres centres d'intérêt.
Ouais, il a plein de centres d'intérêt, et ouais. ce qui fait que le mec, c'est un peu pas un ovni au final, mais le fait que son podcast soit intéressant, c'est qu'il a plein de centres d'intérêt différents, il a plein de loisirs, mais d'activités différentes, ce gars-là. Et ça m'a permis de me rendre compte que justement, tu peux pas vraiment définir les gens sur un critère, quoi. Genre, les mecs qui le connaissent à travers l'UFC vont dire, ah, ce mec-là, c'est juste un mec qui est à fond dans le sport en mode, ouais, je suis un mec vénère et voilà. Alors qu'en fait, derrière le mec, c'est un comique, c'est pas du tout l'image que tu te fais d'un comique. Bref. Et donc, je pense que ça a permis vraiment de me rendre compte, moi, qu'il y avait plein de trucs différents, que tous les gens sont pas définis par un seul truc. Et pareil, dans mon truc rendez-vous tech, là, où je me rends compte de ça, j'écoute pas ça trop souvent, mais je me suis rendu compte que tous ces mecs-là, ils parlent d'un peu de tous les sujets. En autre podcast que j'écoute, en français, il y a le podcast de l'UFC, le podcast qui parle de l'UFC, je crois. Le slogan, c'est Octogone. Je sais pas si tu connais ce truc.
Non, je connais pas.
C'est français, apparemment c'est assez vieux. J'ai pas. Parce que attends, je regarde vite fait. Là, ils en sont à leur épisode 215. Donc,
ah ouais.
Je sais pas c'est quoi la fréquence. Ça a l'air d'être. Ouais, c'est quasiment lié à chaque fois qu'il y a un événement UFC. Donc c'est vraiment axé UFC. C'est pas mal. Ça te permet de suivre les news. Ça te permet de capter tu vois, les résultats que t'as pas pu suivre. Tu vois, les cartes préliminaires, les trucs comme ça. Donc je le suis un peu. Après, pas religieusement, parce que, en gros, si j'ai déjà toutes les infos qu'il faut sur le dernier UFC ou le prochain, je vais pas forcément l'écouter, mais si j'ai un petit temps libre et que j'ai raté un combat ou je veux savoir ce qu'ils en pensent ou quoi, je vais écouter ça.
D'accord, mais les mecs qui font ça, donc vraiment, ils décryptent bien en détail chaque
ouais,
événement.
Ouais, ça dépend. Parce que ce qui est bien, moi, ce que j'aime aussi en podcast, c'est le côté humain, c'est pas des journalistes, quoi. Aussi bien comme Joe
ouais,
Rogan
bien sûr,
ou quoi. Hein. C'est qu'en gros, les mecs, s'il y a un combat qui les a fichés, bah, un peu comme nous on fait des fois, tu vois, ce combat entre John machin et un mec que tu connais pas, les mecs, ils vont zapper, quoi. Ils vont se dire, ces mecs-là, on les connaît pas. Ils se prennent pas la tête, ils parlent des trucs qui les intéressent, eux, quoi. Donc c'est ça qui fait que voilà, c'est pas vraiment le journalisme où le mec il est censé être présenter tous les faits un par un, c'est par rapport à ce que eux apprécient, quoi. Et pour finir, alors c'est genre, parce que j'écoute plein de podcasts différents, donc j'ai pas tous les listés, mais pour finir, un que j'aime bien j'ai un peu décroché de celui-là, c'est tu vois qui c'est Jack Slack.
Oui, bien sûr.
Le mec qui écrit pour Vice là et pour d'autres trucs.
Ouais, qui fait des analyses super intéressantes.
Il analyse bien poussé des combats et donc il a un podcast qui s'appelle Fight Gone By.
Je sais même pas qu'il y avait un podcast.
Ouais. Et d'ailleurs, je savais même pas, mais il est anglais.
Oui, il est anglais.
Il est anglais. Et en fait, en gros, lui, c'est un peu pareil. Il va parler de différents événements, le dernier UFC, le Bellator, le Glory, même combat de boxe qui s'y est passé. Et il va un peu faire un breakdown en version podcast. Il va donner vite fait des petits pronostics, mais c'est juste intéressant de voir sa vision du truc parce que le mec a l'air bien calé dans ce qu'il dit. Donc c'est un peu ce que j'écoute, des podcasts avec CUFC, un peu de tech, technologie. Et puis après il y en a plein d'autres, aussi beaucoup de podcasts d'histoire. Souvent, je sais pas si tu connais, non, pas, tu m'as dit que t'écoutais pas trop de trucs en français. Il y a un truc qui s'appelait avant Hérodote.net, Donc c'est un mec, je sais même pas c'est quoi son parcours, mais il fait des podcasts sur l'histoire. Avant il le faisait tout seul, maintenant ça a changé de nom, ça s'appelle... Alors ça s'appelait Herodot.net au début, après ça s'appelait Temporium, maintenant c'est Timeline. Le mec s'appelle Richard Fremder et donc il parle de tous les sujets qui lui passent par la tête. Tu vois là, ces derniers podcasts, c'est le vrai visage de François Ier, l'histoire du rock,
d'accord,
Hibernatus,
oui.
La corruption au 19e siècle, bref.
Mais putain, ce qu'il a envie Hibernatus, de faire, ça a vraiment existé, c'était pas juste un film avec Louis de Funès, quoi.
Bah écoute, j'en sais rien, j'ai pas écouté celui-là. Donc bref, c'est plein de trucs intéressants et aussi un truc de Europe 1, je crois. Attends, ouais, si c'est Europe 1, un truc bleu là. Un mec, Franck Ferrand, qui parle de tous les jours, je pense. Hein. Il fait des trucs où, je sais pas, j'ai jamais écouté la radio en elle-même, mais c'est, en gros, c'est des extraits de la radio qui sont foutus en flux podcast, quoi. Et il parle de plein de trucs. Là, lui, il a parlé de, d'un parfumeur de génie, la grotte de Lascaux, Chopin,
ah ouais.
Madame de Maintenon, je sais pas qui c'est, le maréchal de Saxe, Diderot, enfin bref, il trouve un sujet, il en parle. Des fois, c'est un peu lié à l'actualité, des fois, c'est un peu lié au fait qu'un mec a un livre dessus, enfin bref. Donc, c'est des trucs que j'écoute, quoi. On va dire histoire, tech et puis combat, quoi.
D'accord.
Ouais.
Ok. Très bien, très bien, très bien.
Voilà. J'espère que vous avez tous noté ces références.
Mais ouais, c'est ça qui est, c'est sûr qu'il y a ce qui est un petit peu dommage, c'est j'aimerais bien, comme plein de gens, avoir un petit peu plus de temps pour checker plein de trucs. Parce ouais. que, en plus, ce qui est cool avec ces podcasts, c'est tout simplement que ça te permet de faire d'autres trucs à côté, quoi.
Enfin, ouais, carrément. Ouais.
Le nombre de fois où je me suis retrouvé à bosser en écoutant un podcast, c'est le bonheur, quoi. C'est parfait.
Ouais, c'est clair.
Mais ouais, mais bon. C'est comme ça.
J'aimerais bien en écouter discrètement au taf, mais ça se fait pas trop. Quoi.
Mais toi, t'es en open space.
Ouais.
Ouais, ouais, parce
bah après, je peux glisser une oreillette, mais bon, s'il suffit qu'un mec me demande un truc. Et...
Ouais.
Puis en plus, enfin, dans mon taf, sans raconter notre vie ou quoi, je suis responsable d'une équipe, et donc je veux pas donner le mauvais exemple.
Humble brag.
Ouais, ça va être le titre du podcast.
C'est ça, ouais. Point sur la table, slash humble brag.
Il est tout trouvé, quoi.
C'est ça.
Ouais, voilà.
D'accord, ouais. Ouais. Mais c'est marrant parce que tu vois, j'ai donné un coup dans le micro. Dans notre cas, on s'est dit ouais, vas-y, on va faire un podcast qui parle de MMA, mais en fait, à la base, on voulait faire toi et moi uniquement un truc qui parle de MMA.
Ouais.
Mais très rapidement, on a dévié sur on raconte nos vies et puis après on parle de MMA.
Ouais.
Et je me dis quand même, c'est je vais pas dire que c'est genre, je vais pas dire que c'est courageux ou quoi que ce soit, mais faut quand même avoir envie de se dire on va se raconter nos vies, poster ça sur internet et se dire que ça va intéresser des gens, quoi.
Ouais.
Mais j'ai fait écouter à ça des gens autour de moi et j'aurais demandé d'être le plus objectif possible, ouais. Et ils m'ont dit que ça avait quand même un certain intérêt, quoi. Donc je me dis bon
non mais tant mieux. Bah, je te dis moi la démarche de faire le podcast, je trouvais ça cool en fait. Enfin, j'associais ça un peu parce que on va peut-être se répéter, mais on s'est rencontrés par le biais de la musique et tout ça. Moi, ça fait depuis que je suis ado que je fais des groupes, etc. Et moi, j'ai toujours, en plus, les sous-genres de musique.
Oui, un truc vraiment très underground, quoi.
Un truc underground, donc c'était pas du tout pour être des superstars, quoi. Donc, j'ai jamais eu l'approche de faire de la zik en pensant à un public, quoi. En me disant, est-ce que les gens vont aimer ou pas? Ça a jamais été dans ma tête. Donc quand on a commencé le podcast, je me suis toujours dit on fait un podcast parce que voilà, on va voir ce que ça donne, on va en parler. Mais curieusement, j'ai jamais eu l'idée de me dire bah, qu'est-ce que les gens vont en penser au final, parce que je pense pas à l'auditeur au final. Maintenant, enfin, c'est pas que j'y pense plus, mais je me rends compte que oui, si on les met sur internet, il y a des gens qui vont écouter, mais j'y pensais pas. Mais le jour où je me suis rendu compte que ce podcast il pouvait être intéressant, c'est je crois que c'est le 3 ou le 2, je sais plus, enfin l'éveil d'Antoine.
Ouais. Humble brag inversé.
Enfin, les podcasts sont rentrés un peu dans les trucs un peu perso, entre guillemets, quoi.
Ouais.
On a raconté des trucs qui pouvaient être intéressants pour d'autres. Je me suis dit, ah, c'est quand même cool d'échanger, de parler de trucs concrets. Enfin, c'est des choses dont on parle pas forcément. Alors, peut-être que maintenant on serait plus amené à le faire parce qu'on a grandi, comme je veux dire, à l'époque où on est entre potes en soirée, machin, c'est pas des trucs que tu racontes entre potes, quoi. Tu vois, c'est des trucs perso ou que tu peux raconter éventuellement dans d'autres situations. Mais le fait de s'ouvrir, de parler de plein de choses un peu sérieuses, ça change et c'est rafraîchissant, quoi.
Bah, je me suis dit, en fait, très rapidement, je me suis dit, si on veut que ce soit tant soit peu intéressant, faut être au maximum transparent et honnête. Ouais. J'avais pas l'intention de mentir, de raconter des conneries, mais je me suis dit, je pense que j'ai quand même des choses à dire, certaines choses qui sont pas forcément très communes.
Ouais.
Donc autant en parler, quoi.
Ouais, carrément. Ouais,
plutôt que de me dire, bon, aujourd'hui je suis au boulot, c'était chiant, autant parler des vrais trucs vraiment profonds, quoi.
Ouais. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est un bon moyen d'échanger avec notre audience. Mais d'ailleurs, j'y pense tout de suite parce que le dernier podcast, on avait fait dès le début et là, on l'a pas fait. Nous, on aime vous entendre. On aime le contact avec les gens qui écoutent.
On aime les retours.
Vous êtes très nombreux. Hein. J'ai checké les stats, c'est fou. Donc, juste pour info, on a une, enfin, on a Twitter, c'est, je sais plus, PSLT- ou underscore. Non, PSLT underscore podcast. Un des deux, vous tapez PSLT podcast, à mon avis, on n'a pas 15 000.
C'est ça.
Donc voilà, vous trouverez, il y a un Tumblr, il y a un Twitter, il y a un flux spécial podcast pour mettre à jour, je sais plus l'adresse. Mais vous tapez PSLT-podcast ou PSLT podcast sur Google, ou Bing, ou Yahoo, et vous trouverez, quoi.
On essaye d'entretenir, dès qu'on a un peu de temps libre, on essaie d'entretenir et Twitter et le Tumblr en balançant des combats, en balançant des conneries sur Twitter. Donc, ouais. Je pense que ça a un petit peu d'intérêt de nous suivre quand même.
Ouais, carrément. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous nous trouvez cons, si vous nous trouvez sympas, vous nous le dites.
Non, puis, voilà, n'hésitez pas. On a toujours pas eu de vrais trolls Twitter qui sont là genre, hey, bande de PD, niquez vos mères.
Donc, de toute façon, je pense que les premiers trolls, ça va être des mecs qu'on connaît.
Ouais.
Je les attends de pied ferme.
Il y a moyen, ouais, ouais. C'est même étonnant d'ailleurs qu'ils soient pas encore manifestés, mais on attend patiemment.
Ouais, carrément.
Mais, ouais, mais c'est, ça, c'est un truc, comme je disais tout à l'heure, un truc que j'adore pour ce qui est du podcast, c'est que ça te permet vraiment de faire un truc pour, qui coûte pas un rond,
ouais,
ou très peu, et tu peux parler de vraiment de ce que tu veux, quoi. Et ça rejoint vraiment cette, cette philosophie, si j'ose dire, à laquelle j'étais très attaché quand j'étais, voilà, donc dans le punk et le hardcore et tout, ouais, ça, qui est celle du ce qu'on appelle le DIY, le do it yourself,
ouais, carrément.
Fais-le toi-même, pour ceux qui connaîtraient pas, qui consiste à vraiment à dire que si tu veux faire un truc, bah tu te sors les doigts et puis tu le fais, quoi.
Ouais, ouais.
Donc à la base c'est un concept qui venait uniquement de jeunes américains qui ont fondé leur propre groupe, qui ont sorti leur propre disque et qui ont organiser leur propre tournée,
ouais.
Mais maintenant ce qui est cool, c'est que ça peut s'appliquer à tout et n'importe quoi,
ouais.
Ce qui est cool, et c'est un peu le revers de la médaille, c'est que ça peut être moins cool parce que justement c'est surtout n'importe quoi, donc donc voilà, mais ouais. Ça c'est rien que pour ça, c'était un concept qui me branchait, quoi.
De toute façon, après, pour les gens qui savent pas, toi t'as toujours été branché justement dans le do it yourself et dans la démarche un peu, alors, je sais pas si c'est le terme, mais journalistique, entre guillemets, tu vois, quand tu faisais les, ouais, les zines, etc., les fanzines, voilà, où tu faisais des interviews et tout, t'as toujours été quand même intéressé par entendre la voix des autres et puis même toi donner ton opinion sur des trucs, quoi.
Ouais, 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 bien sûr, hein, j'ai toujours ressenti ce besoin de dire ce que je pensais, quoi.
Ouais.
Et effectivement, moi j'ai toujours bien aimé écrire, donc c'était forcément un bon moyen de satisfaire ma passion,
ouais.
Et vu que j'étais très très intéressé par plein de petits groupes pas connus du tout, mais qui avaient leur propre microcosme et leur propre petite scène, j'avais très envie d'y participer,
ouais.
Et j'ai fait ça en faisant des fanzines, c'est-à-dire des magazines amateurs, tout seul ou avec des potes, en organisant des concerts, et ça reste une super expérience formatrice,
ah ouais.
Même si maintenant la scène musicale, j'en ai plus grand chose à foutre.
Ouais.
Je vais toujours au concert, mais je suis plus du tout actualité.
Ouais, non, c'est clair.
Enfin, de toute façon, j'ai plus trop le choix. J'y suis un peu lié, entre guillemets, de force, puisque 99% de mes potes maintenant viennent de cette scène-là,
ouais,
en fait.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, j'ai forcément toujours un pied dedans. Mais, ah ouais, c'était une putain d'école de la vie, ça, c'est sûr.
Moi, j'ai cette phase parce que j'ai encore, enfin, de manière perso, au quotidien, je m'intéresse pas à des masses, voire même pas du tout à l'actualité de la scène musicale. Peu importe les styles et les sous-genres, je sais pas quels sont les nouveaux groupes, qui fait quoi, machin, je m'intéresse plus trop. Mais je continue quand même à jouer dans des groupes et tout ça. Donc ponctuellement, parce que je le fais moins qu'avant, mais ponctuellement, je me retrouve à des concerts dans ce microcosme-là. Et en ce moment, j'hallucine quand même bien. Je sais pas comment expliquer le truc, mais cette sorte de petit décalage. Enfin, c'est pas que je me sens vieux, quoi. Je vais pas non plus aller jusque-là. Mais je me rends compte qu'il y a plein de petits jeunes, entre guillemets, qui font ce qu'on a fait, ce qu'on faisait, tu vois, qui ont en tout cas l'envie de ce qu'on faisait avant, mais j'ai l'impression que ça se fait moins. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai une discussion avec un pote là-dessus, c'est que je sais pas si c'est tout cet esprit do it yourself, tout cet esprit un peu on se prend en main, on fait ce qu'on a à faire, je sais pas si pas disparu, mais si on a moins qu'avant, ou si c'est parce que moi je suis moins impliqué dedans, en fait. Et c'est une question que je me pose en ce moment, parce que moi, les gens à qui j'ai eu affaire, t'as des gens qui sont, comment dire, entre guillemets normaux. Ce que j'appelle normaux, c'est les gens qui fonctionnent comme toi et moi, quoi, qui font leur truc sans se prendre la tête. Mais j'en vois plein qui se prennent grave la tête sur plein de choses qui sont pas du tout essentielles. Donc je parle vraiment de trucs dans le cadre de la musique, hein, ça va pas forcément parler à beaucoup de gens. mais qui se prennent la tête sur des histoires d'apparence et de style et de copinage et de trucs. Et j'ai l'impression que ça s'est perdu, quoi. Alors, ouais. Je sais pas, je vais te demander ton avis, mais vu que t'es toi aussi assez loin de tout ça, je pense que t'en as pas forcément.
Bah, je suis assez loin de tout ça, mais en même temps, en me créant mon compte Facebook pour la première fois de ma vie, enfin quasiment, ouais. En novembre dernier, j'ai remis un peu un pied dedans, puisque ouais. Encore une fois, quasiment tous nos potes sont dedans, donc ça me met encore plus au courant d'actualité.
Ouais.
J'ai quand même l'impression qu'il y a, en tout cas sur Paris, il y a toujours plein d'endroits pour jouer, il y a toujours plein d'orgas de concerts et de ouais. concerts qui se font. C'est, en plus. La scène dans laquelle on a évolué pendant longtemps, celle qu'on appelle, moi je vais mettre plein de guillemets autour, mais la scène garage, ouais. elle a quand même vachement évolué. Maintenant, c'est un truc qui a quand même son petit succès, quoi.
Ouais, ouais, carrément.
Alors que, enfin, quand on a commencé à traîner ensemble, quand je te voyais jouer dans ton groupe de punk, enfin, c'était dans une cave devant 5 personnes, quoi, tu vois. Alors que maintenant, c'est régulièrement des concerts de 100, parfois 200 personnes avec.
Tu vois, moi, c'est ça dont je parle, c'est que justement, il y a cette scène, voilà, qui a évolué et tout. Après, en même temps, j'y vais pas, donc je sais pas du tout si je suis objectif, c'est une belle observation ou pas. Mais j'ai l'impression que ces concerts-là, confidentiels, il y en a moins qu'avant, en fait.
Ah, vraiment.
Soit il y en a moins qu'avant, soit je suis pas du tout dans les bons réseaux et je sais pas où les trouver.
Bah, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de concerts.
Ouais.
Après, si tu parles de concerts confidentiels dans des caves, dans des bars de merde, ce genre de choses, effectivement, il y en a moins parce qu'en fait, il y a plus d'endroits adaptés pour ce genre de choses, quoi.
Ouais, c'est ça, en
tu
fait.
Prends déjà, il y a eu la mécanique à Bastille qui a été le premier vrai club underground de Paris.
Ouais.
Enfin, de notre époque, en tout cas. Et maintenant, t'as des trucs comme la station à Porte d'Aubervilliers qui est...
Jamais mis les pieds
là. Moi non plus, mais voilà, c'est une ancienne gare SNCF ou une ancienne station de métro qui a été refaite en salle de concert. Et voilà, c'est investi dans ce genre d'endroit alors qu'avant, c'était pas du tout le cas, quoi.
Ouais, non, mais c'est vrai aussi qu'il y a aussi le fait que justement, les mecs comme nous, entre guillemets, quoi, qui ont évolué là-dedans, de manière générationnelle, c'est des mecs qui aujourd'hui peut-être ont les thunes ou quoi, ou les moyens de faire vivre ces salles-là qu'il n'y avait pas forcément avant, parce que je me dis peut-être qu'il y avait tous ces mecs-là qui ont joué dans des groupes ou qui ont fait des petites orgas, etc. Peut-être qu'une partie d'entre eux s'est dit vas-y, je vais le faire un peu de manière plus carrée. Ils sont démerdés pour trouver des lieux qui soient, comment dire, pérennes, quoi. Ou parce que je sais que il y avait quand même des lieux un peu fixes à l'époque, mais c'était souvent d'un bar à l'autre. T'avais un bar que pendant un an les concerts, tous les concerts étaient dans ce bar-là, et puis au bout d'un moment ça disparaissait parce que il y avait trop de plaintes de voisins ou je sais pas quoi. Mais là, j'ai l'impression effectivement que même si je retrouve plus ces petits coins confidentiels, qu'en tout cas les salles où il y a des trucs tout le temps, bah, elles sont quand même là et on a plus qu'avant, comme tu dis.
Ah oui, bien carrément. Sûr. Je trouve qu'il y en a plus qu'avant. Il y a des groupes issus de cette scène qui ont vraiment cartonné, comme les Black Lips par exemple.
Ouais.
C'est un groupe que moi j'avais vu voilà, dans un bar de merde qui s'appelle Le Gambetta dans le 20e arrondissement, au fin fond du 20e arrondissement, qui est vraiment un bar pourri.
Avec un pylône devant la scène.
Avec un pylône devant la scène, donc parfait quoi, pour profiter d'un groupe. Et maintenant, les mecs se retrouvent à faire la couverture de magazine, à jouer devant genre des salles de peut-être 1000 personnes. Enfin,
ouais.
Donc et ça c'est un groupe qui a fait vraiment office de fusée un peu pour le reste de la scène en fait quoi.
Ouais, non, c'est vrai.
Et puis il y a eu des gros labels indépendants qui sont apparus comme Born Bad Records par exemple,
ouais.
qui donc que tu connais bien, tu as sorti un disque chez eux. Et voilà, non mais pareil, ça a eu un effet énorme sur la scène maintenant. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, vraiment élevé le truc en tout cas.
Ouais. Mais en fait ouais, après c'est dur d'en parler parce que comme je te dis, c'est vraiment déjà j'ai du mal à l'expliquer, mais c'est aussi un ressenti. Enfin, je pense qu'il faut avoir vécu un peu dans cette scène pour capter le délire. Mais pour donner un exemple, on a joué avec un de mes groupes là, c'était je sais pas, il y a 2 ans. On a joué donc à la mécanique ondulatoire. C'est une asso qui nous a fait jouer. Et justement voilà, c'était un peu une asso et tout. Après c'est un exemple, donc c'est pas du tout représentatif de toute la scène. Mais justement, j'avais l'impression que c'était des mecs un peu en mode, voilà, normaux, quoi. Genre, on a une asso, on veut faire jouer des groupes, on les fait jouer. Et en fait, c'était une sorte de bande d'étudiants, je sais pas, en événementiel ou quoi, qui organisaient des concerts, mais leur approche du concert, c'était. Ça avait rien à voir avec l'esprit qu'il y avait avant, si tu veux. Dans le sens où les mecs.
Parce que, alors. Avant que tu continues, excuse-moi, je te coupe, ouais. Mais juste pour des gens qui nous écoutent, qui savent pas trop
de quoi on parle.
À la base, un petit concert indépendant comme ça, en gros, avec des groupes totalement amateurs où les mecs bossent à côté, ils se font pas de thunes. En général, quand on fait un concert comme celui-là, en général, ils vont avoir à boire gratos, à manger gratos. Un petit peu de thunes, ça va s'élever à une centaine, peut-être 200 euros maximum dans ces cas-là.
Ouais, ouais.
Et si c'est un groupe qui sont en tournée, qui vivent dans une autre ville, ils vont avoir un endroit où dormir. Mais on va jamais se faire de thunes. Ça, c'est vraiment juste histoire de poser les bases.
Ouais, voilà. Parce que moi, en fait, justement, pour faire encore plus une parenthèse par rapport à ça, moi, les premiers concerts où on a touché de la thune, quand je parle de toucher de la thune, je parle de 50 euros. Je parle 50 euros pour le groupe. Hein. Je parle pas de sommes, de grosses sommes. Mais moi, historiquement, quand j'avais commencé mes premiers groupes, pour moi, un concert, la façon dont je l'expliquais aux gens, parce que les gens comprenaient pas autour de moi, quand je l'expliquais de la musique, mais tu passes sur M6, non. La façon dont j'ai expliqué le truc, c'est qu'en gros, c'est t'as le terme do it yourself et le terme no profit, quoi. Genre, voilà, pas de profit, pas de bénéfice. L'idée, c'est quoi? C'est que t'as que des gens normaux ensemble, des mecs qui vont avoir une asso, ce qu'ils vont, ils vont se démerder pour faire un concert dans un bar, passer un deal avec un mec, soit ils gèrent toutes les thunes des entrées pour eux, soit le bar récupère une partie, ou alors le bar donne une partie de sa recette. Ils se font un deal au début. Et avec cet argent, ils se font une petite estimation, ils se disent, vas-y, on va mettre une entrée à 5 euros, si on fait rentrer 30 personnes, 50 personnes, on aura 250 euros. Ils vont payer 50 euros de bouffe, ils vont payer le groupe étranger ou le groupe qui est en tournée, ils vont leur lâcher 100 euros pour l'essence, à l'autre groupe peut-être 100 euros pour l'essence, et puis le groupe local, il touche pas grand chose ou le reste, parce que, et donc voilà. Et donc en gros, le groupe qui est venu, qui a fait son trajet, il se rembourse son trajet, il perd pas d'argent, il en gagne pas. Le gars qui a fait son assaut, il a lâché 50 euros pour la bouffe, mais il a récupéré des entrées. En gros, personne touche de thunes, personne ne perd de thunes, c'est ça le principe de base, quoi. Et en fait, pour en revenir à mon histoire, j'ai rencontré des mecs là sur cet assaut où les mecs qui font ça en général, ils sont genre 2, 3 quoi. Un, des mecs tout seuls, des mecs 2 à 3. Les mecs, ils étaient genre 15.
Ah ouais.
Je te jure, ils étaient genre 15. Avec un mec qui s'occupait de foutre une déco, un mec qui s'occupait de foutre des lumières, un mec qui faisait une exposition visuelle ou je sais pas quoi. Enfin, c'était compliqué. Et en plus, sans vouloir faire le mec en mode humble brag ou prétentieux ou quoi, là où on avait joué, c'est un endroit où j'ai joué je sais pas combien de fois, plein de fois quoi, ouais. Vraiment beaucoup de fois. Et donc en arrivant à ce concert, ces mecs-là nous ont accueillis en disant voilà, bienvenue à la mécanique ondulatoire, on va vous expliquer comment ça se passe. Donc bon, moi tu joues le jeu et t'as pas forcément besoin de le stopper pour lui dire non, mais c'est bon, je sais, donc tu le laisses parler. Et je voyais la façon qu'ils voyaient les choses. C'était personne n'avait de thunes sauf eux.
D'accord, ouais.
Il a fallu négocier des trucs.
Personne, tu veux dire qu'ils voulaient pas acheter de thunes pour les groupes?
C'est-à-dire que, ouais, eux, ils faisaient des entrées, je sais pas ce qu'ils en faisaient des thunes. Peut-être qu'ils se remboursaient des trucs, mais ils faisaient des dépenses qui étaient complètement inutiles.
Bien sûr, ouais.
À mon sens. Voilà, ils auraient pas de thunes, il y avait de la bouffe, si je dis pas de conneries. On avait demandé juste pour les potes s'il y avait moyen de gratter une invite pour la copine, pour le copain. Eux, ils faisaient zéro invite parce que ils comprenaient pas pourquoi.
Sérieux?
Ouais. Et donc ce qui était hyper hyper bizarre, et donc je suis désolé parce que c'est vraiment propre à cette scène, pour ceux qui connaissent pas ça peut-être moins intéressant, mais ce qui était vraiment bizarre pour moi c'est que c'était des mecs qui étaient en gros la relève dans ma tête, parce que c'était des petits jeunes quoi, et qui avaient une vision complètement différente de la mienne. Alors je dis pas que j'ai raison ou quoi, mais ils avaient une vision complètement différente de la mienne. Et ils essaient de nous expliquer comment fonctionne le monde de la musique. Et pour eux, c'est comme ça que ça fonctionne pour eux, quoi. Donc c'est pour ça un peu que je me dis, tiens, c'est bizarre. Je me demande si cette scène, elle est aussi vivante qu'avant, ou si ça a changé, parce que justement, eux qui sont plus jeunes maintenant, leur vision des choses, c'est justement ces histoires de trucs qui ont marché, quoi. Des trucs qui étaient un peu underground, ils ont peut-être pas forcément connu les Black Lips, mais ils ont connu les Black Lips une fois qu'ils étaient à la maroquinerie, une fois qu'ils étaient je sais pas où. Ils ont pas forcément connu les Black Lips en bêta, quoi. Donc voilà, c'est juste un constat, un petit parallèle sur la scène musicale.
Ouais, c'est bizarre, ouais. Mais c'est ça, ouais, t'as l'impression que c'est limite, enfin j'exagère, mais limite en voie de professionnalisation.
Ouais.
Et là, on a des amis à nous qui font une asso qui existe depuis quelques années. Ils font des concerts non-stop tout le temps. Ils sortent, c'est une asso qui fait label aussi, donc ils sortent pas mal de trucs.
Tu parles de quoi?
De quelle asso?
Ouais.
Gone with the Wind.
Okay.
Et là, ils ont eu genre un vrai article, genre de 4 pages dans un magazine qui s'appelle Konzai. Tu rigoles, mais bref, c'est juste en guise de preuve de ce qu'on avance. C'est voilà, c'est avant moi quand je faisais mon asso et que je faisais mes concerts, ce serait jamais arrivé.
C'est clair.
Après bon, moi j'en ai fait beaucoup moins qu'eux, mais c'était encore assez
obscur. Intérêt sur ça, mais peut-être que je me dis aussi que voilà, les mecs qui je les connais pas trop, les mecs de Gonzaï, mais je pense que les mecs qui font tourner Gonzaï, c'est peut-être des mecs justement qui viennent un peu de ces scènes là, donc ils s'y intéressent un peu.
Oui, bien
alors
sûr.
Avant, il y avait quand même une sorte de séparation entre les mecs, les pros quoi, les pros de la ZIC, je sais pas, qui avaient les magazines de musique de l'époque et les petites scènes, quoi. Donc
bon. Mais ça, c'est encore une fois, c'est avec, alors je vais pas dire avec Internet, parce que Internet était là bien avant, mais.
Si, ça a changé, hein. Ça a changé.
Enfin, mais choses, ça a changé beaucoup de choses, et puis surtout avec, cette espèce d'énorme média tentaculaire qu'on appelle Vice. Ouais. Qui s'est intéressé à Donf, à ces petites scènes et même à d'autres sujets vachement obscurs, ouais, ça a éclairé beaucoup de choses.
Ouais, bah, Vice, ils ont rendu les scènes underground et confidentielles cool, et donc plus confidentielles et plus underground.
Ouais, c'est très 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 dur de, ça doit exister, mais une vraie scène confidentielle avec un vrai style musical novateur, c'est. Je pense que c'est beaucoup plus dur à trouver qu'avant, quoi.
Après, voilà, bah, je me dis, j'ai le même avis que toi, mais après, j'ai quand même des réserves dans le sens où je m'intéresse beaucoup moins, je creuse rien, quoi. Alors que, paradoxalement, quand on était plus jeune et qu'on checkait la musique, je pense qu'on allait vraiment creuser et chercher les groupes obscurs, alors que moi, maintenant, je regarde rien, quoi. Donc, voilà, je sais pas. Ouais. S'il y a des mecs en mode hyper underground qui ont des trucs à dire, envoyez-nous un mail, hein. Mais, ouais, je sais pas.
Ouais, encore une fois, on serait curieux d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas. Ouais. Mais après, en plus, moi, c'est vrai que ce qui m'a gavé en étant à Donf dans la scène, en fréquentant que des lieux où il y avait des gens de cette scène-là, en pensant qu'à ça, en mangeant qu'à ça. Alors, à la fois, quand t'es jeune, t'as une passion et c'est bien, c'est sain.
Ouais.
Mais au bout d'un moment, tu satures. Tu t'enfermes, effectivement. Il y a limite un côté un petit peu ghetto, j'ai envie de dire.
Ouais.
Et surtout, je sais pas ce que t'en penses, mais je me suis fait des bons potes dans la scène, mais c'est. Quand t'es vraiment vraiment dans la scène, il y a un côté un peu mini société, un côté un peu genre ou peut-être jet set où tu sais t'as les gens cool et t'as les gens qui sont moins cool.
Ouais.
Des fois j'avais un peu l'impression de me retrouver au collège, quoi.
Carrément.
Avec cette espèce de hiérarchie à deux balles et c'est vrai que ça m'a un peu saoulé, quoi. Et puis il y a eu ça et puis il y a eu l'expérience aussi avec où je devais entamer un espèce de me lancer avec d'autres gens dans un truc qui était censé devenir un gros label et en plus de ça une boîte de ce qu'on appelle de touring, de tour management qui organise des tournées.
Ouais, c'est vrai que c'était ça à la base.
Je tiens à préciser, c'est complètement parti en vrille.
Ouais.
Et du coup forcément ça m'a un peu calmé et puis c'est arrivé sur la fin, c'est arrivé sur avant l'éveil d'Antoine en fait, où vraiment où je commençais à toucher le fond, donc il y a eu une addition de trucs pas cool qui ont fait que ça m'a vraiment saoulé, quoi.
Ouais.
Je pense que mon rapport à la scène maintenant est quand même est beaucoup plus sain.
Ouais, bah moi j'ai ce côté jet set, je l'ai senti. T'as parlé de Born Bad, j'ai un groupe qui est sorti sur ce label Born Bad et vu que c'était le label un peu à la cool, ou je sais pas si c'était le label, mais il y avait tout un truc qui faisait que il y a un moment donné ce groupe dans lequel je joue, il était un peu dans ce microcosme là, le groupe à la cool, quoi. Sauf que comment dire, historiquement j'avais je sais pas combien d'années de musique avant ce groupe et j'en ai eu depuis et tout. Et je me suis rendu compte que d'un seul coup, t'es le pote de tout le monde.
Ouais. Ouais.
Alors qu'il y avait plein de gens que je connaissais pas. J'ai plein d'anecdotes un peu à la con, mais où j'étais devant une salle, devant un bar, en train de parler avec un pote et de voir un mec qui déboule, que je connais pas du tout, qui vient me checker, me parler, me serrer la main. Ça vu, mon pote, qui tape la discute et qui ignore complètement le mec qui est à côté de moi, qui lui dit même pas bonjour, juste parce que je suis un mec qui joue dans un groupe, alors que je suis le même mec, aussi bien dans la rue que sur la scène, quoi. Et je me suis rendu compte que, ouais, il y a un truc que j'aimais pas, qui m'a gonflé, c'est ce côté où, je pense que j'ai dû paraître hyper désagréable auprès de plein de gens sans le vouloir ou peut-être volontairement des fois, quoi, franchement. Mais ce côté où salut, t'es trop mon pote alors qu'on se connaît pas et
ouais,
que,
parce vois, que t'es dans le groupe du moment, quoi.
Ouais, et puis j'ai même des exemples un peu à la con où tu rencontres des mecs avant le concert, ils te connaissent pas, ils te calculent pas, mais de manière naturelle. Il y a pas de raison de se calculer, mais t'es dans un groupe de personnes et t'es pas forcément calculé. Puis d'un seul coup, ils apprennent que tu joues dans le groupe et d'un seul coup, t'es genre le centre d'attention alors que. T'étais exactement le même mec il y a deux secondes, quoi. Et donc moi c'est un truc que j'aime pas.
Ouais, tu m'étonnes.
Délire, ouais. Je comprends pas trop, quoi. Donc c'est un des trucs aussi, ouais, qui fait que j'ai un petit recul et je me mêle moins
ouais.
Dans ce truc là, quoi.
Ouais, c'est sûr que c'est gonflant. Je me rappelle d'ailleurs c'était au mariage d'un pote, je t'avais parlé d'une meuf que j'avais rencontrée brièvement qui te connaissait. On va pas dire qui c'est, et tu m'avais dit, ouais, bah, cette meuf, c'est le genre de meuf qui me calculait pas quand j'étais dans des groupes de hardcore, et à partir du moment où j'ai fait Youssouf, elle venait toujours me dire bonjour.
Ah ouais?
Ouais.
Je sais plus de qui tu parles, tu me le diras.
Je te dirais, en off. Mais voilà, c'est un truc typique.
Ouais, enfin bon, bref. C'est pas des trucs très graves, quoi, mais c'est juste que c'est bizarre.
C'est toujours un peu sur ce mode-là, c'est un peu chiant, quoi.
Ouais, et puis après, voilà, bon, après, on va peut-être clore le chapitre sur la scène musicale, parce que peut-être qu'il y a des mecs qui sont branlent, quoi, mais moi, j'ai fait plein de styles différents, des trucs vraiment qui sont, qui se mélangent pas quoi au final. J'ai fait des groupes genre metal hardcore avec que des mecs en baggy et en t-shirt de basket crâne rasé qui sont là genre qui sont vénères quoi. Et tatoué de partout machin, j'ai fait la scène garage, j'ai fait la scène emo, j'avais un groupe de screamo. Donc bref, c'est des scènes hyper différentes et tu te rends compte je sais pas, il y a des sortes de points communs et des différences mais qui font que il y a un truc pas forcément, je vais pas dire malsain, c'est le terme est trop fort quoi. Mais ou des sortes de copinage juste par rapport à quel truc t'es rattaché, tu vois. Enfin, moi c'est un truc tout con mais dans la vie de tous les jours quand j'étais gamin que t'avais des mecs qui se croisaient, genre t'as un mec qui avait un t-shirt Korn et l'autre il avait un t-shirt Limp Bizkit. Oh putain, trop cool, ce mec là il doit être trop cool. Et j'ai jamais compris ce truc là quoi.
Ouais, ouais.
J'ai jamais capté le fait que t'écoutes la même musique forcément tes potes, ou alors à l'inverse qu'un mec qui écoute je sais pas à l'époque quoi Sean Paul, ça c'est forcément un bouffon quoi.
Ouais.
J'ai jamais capté ça. Donc j'ai toujours eu du mal avec ce côté voilà, cours d'école quoi, collège ou genre parce que t'es attaché à tel style. Alors je comprends la logique, tu vois que t'as un point commun avec quelqu'un, t'es plus attiré vers cette personne. Mais j'ai du mal avec ça, je préfère rencontrer les gens et puis tu te rends compte que soit tu rencontres une personne et tu t'entends bien avec et voilà, t'es pote, soit c'est un connard et t'es pas pote, point. Mais après, le reste, c'est pas très important, quoi.
Ouais, non, mais c'est sûr, ouais, mais ça, c'est un truc que j'ai pas intégré tout de suite, mais quand je suis arrivé vraiment dans la scène, quand j'avais 17, 18 ans, surtout qu'à l'époque, il y avait très très peu de jeunes, j'étais un des seuls.
Ouais.
Et donc, il y avait que des vieux, donc déjà, c'était cool, j'ai l'impression d'être un mec cool parce qu'il y avait que des mecs qui avaient déjà la trentaine, ouais, voire plus. Et j'étais là genre putain, mais c'est une vraie petite famille, enfin tout le monde est trop pote, c'est trop génial, ce qui est pas du tout le cas. Et surtout, qui dit scène pas forcément underground, mais qui dit scène musicale, groupes musicaux, des gens avec un côté artiste, c'est des gens qui vont avoir des personnalités très particulières.
Ouais.
Et il y a quand même des bons cassos dans le groupe quoi.
C'est clair.
Non, c'est comme un autre aspect qui est intéressant.
Ouais.
C'est à la fois, c'est marrant parce que tu rencontres des gens que tu croiserais pas ailleurs.
Ouais, ouais.
Mais il y en a qui sont vraiment des réels bouffons quoi.
Ouais.
Et sans parler aussi de voilà des gens qui sont à donf dans la scène et qui en fait sont super sont super fermés d'esprit en fait quoi.
Ah non, voilà, ouais. c'est exactement, j'avais pas réussi à bien formuler mon histoire de Limp Bizkit, Korn, Sean Paul là. Mais ouais, le fait d'être simplement, enfin justement, il y a un paradoxe que moi j'avais noté, c'est que ces mecs là qui sont dans un truc alternatif, donc qui sort du courant mainstream,
qui ont l'ouverture d'esprit pour essayer d'avoir,
voilà, qui se disent voilà, j'écoute pas ce qu'il y a à la radio, je regarde pas ce qu'il y a à la télé, moi j'ai ma propre scène et tout, je suis trop différent, je suis ouvert d'esprit, les gens ils savent pas ce qui se passe et tout. Bah ils sont tellement d'un extrême à l'autre qu'ils sont hyper fermés à tout le reste quoi.
Ouais, bien sûr.
Et j'en ai rencontré mais des millions quoi.
Ouais, c'est clair.
Comme ça, tu vois, justement moi quand j'avais mes groupes entre la scène hardcore et mon groupe un peu, enfin c'était pas de l'emo mais c'était affilié à la scène screamo emo quoi. Pour ceux qui connaissent pas, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon bref, c'est deux courants différents. Et je me souviens quand j'allais à mes concerts de hardcore et tout avec les mecs vraiment du hardcore et tout, je sais pas si quand la discussion tombait sur les styles musicaux, les mecs ils crachaient comme je sais pas quoi sur tout ce qui était screamo, c'est de la merde, c'est de la mode du moment, c'est pourri et tout. Et je disais ouais, moi je joue dans un groupe exactement comme ça. Ils disaient putain non, mais en fait ce que je voulais dire, mais ouais, bref. Les gens ils sont hyper fermés d'esprit quoi.
Ouais, bien sûr, ouais. Ça c'est un truc qui était un peu rebutant quoi. Je me rappelle quand je parlais avec mes potes, encore une fois, garageux, j'utilise le terme garageux, c'est vraiment pour en mettre un mot dessus, mais c'est un mot qui veut rien dire. Mais bref. Et que j'ai commencé parce que mine de rien, j'écoutais toujours, même quand j'étais dans la scène, quand j'étais vraiment piqué dans la scène, j'écoutais quand même plein de trucs à côté quoi, du métal, du hardcore, genre
ouais.
Et quand j'en parlais avec des gens, ils hallucinaient totalement quoi. Ils disaient genre mais sans déconner, t'écoutes vraiment ça?
C'est quoi ton problème?
C'est quoi ton problème? D'autres qui pensaient que j'ai, alors c'est marrant parce que moi-même je faisais chier des potes avec ça, mais quand ouais, j'en parlais à d'autres gens, ils disaient genre ouais d'accord, mais c'est bon, t'écoutes ça pour faire style, t'écoutes ça ironiquement ou quoi que ce soit. Genre, non mais genre j'aime vraiment ça quoi. Et du coup c'est vrai que quand même des potes que j'ai, des potes proches que je me suis fait dans cette scène comme toi par exemple, ou d'autres, c'est des gens qui en ont rien à foutre et qui aiment vraiment la musique pour ce que c'est quoi, et qui aiment des trucs qui vont pas se prendre la tête pour des histoires de microcosme. Ouais, donc ça c'est juste, c'est marrant quand t'es vraiment jeune, quand t'es un jeune adulte, mais au bout d'un moment c'est gonflant.
Moi j'avais un camarade de groupe, peu importe. Qui avait sorti cette phrase une fois, ça m'a fait marrer, ou je sais plus c'était quoi la discussion, mais il disait non mais moi je suis hyper éclectique, je suis hyper ouvert d'esprit, j'écoute de tout, j'écoute aussi bien du métal que de l'indus, que du goth et que du je sais pas, du deathcore ou je sais pas quoi, alors qu'en gros c'est un peu plus ou moins tous des trucs qui sont dans un même sous-genre. Quoi.
Bien sûr. Ouais.
Et le mec en parlait en mode, moi je suis ouvert à tout, alors qu'il y a plein, bref, il y a plein d'autres choses à découvrir, quoi.
Ouais, c'est clair. Voilà. C'est clair. Pour moi, un mec vraiment ouvert, c'est un mec qui va autant écouter, mais qui va écouter avec une vraie envie, avec un vrai côté concret derrière, autant, aussi bien du black metal que du reggae, par exemple, quoi.
Ouais, c'est clair.
Moi j'ai
trouvé une petite transition là pour rentrer dans le sport, parce qu'on essaie toujours de parler un peu de trucs perso et après d'aller dans l'UFC, le MMA. Et
toujours avec des transitions genre vraiment totalement fluides, quoi.
Totalement fluides. Moi j'étais en train de penser au comment ça s'appelle, les musiques, tu sais, quand les mecs ils sortent du tunnel là pour aller sur le
on appelle ça des walkout songs.
Ouais, les walkout songs. Pour toi, c'est qui de tête qui a la pire
En tant qu'amateur de musique, je peux dire qu'à l'UFC, j'ai les oreilles qui saignent.
Alors déjà, moi, avant que tu répondes, j'ai un message pour les mecs qui font Fight Pass. Parce que d'après ce que j'ai compris, en gros, pour pas payer les droits d'auteur aux mecs, une fois que l'événement il est sur Fight Pass, ils
coupent la musique,
ils changent la musique.
Ah d'accord.
Et ils mettent des banques, des musiques, tu sais, je sais pas, libre de droit, quoi.
Ouais. Ah, je savais pas. Ouais.
Donc tu fais gaffe, tu peux mettre n'importe quel combat. L'autre fois, j'ai regardé, je sais plus quoi, ça va me revenir. Et quand tu les vois sortir, t'as une zik vraiment de libre de droit où il n'y a pas de parole, c'est juste donc si c'est un mec qui a une image un peu genre metal punk ou je sais pas quoi, c'est des vieux riffs, mais tu sais, des vieux riffs.
Tu veux dire qu'ils adaptent la musique plus ou moins à son profil.
Après je sais pas par rapport, s'ils adaptent par rapport à la musique originale du mec ou s'ils inventent, quoi, je sais pas. Mais tu vois, genre si c'est un mec qui sort souvent avec du hip hop, ils vont mettre un truc mais hip hop mais en mode libre de droit, donc c'est vraiment le mec qui a fait une vieille boucle toute naze, qui a aucune pêche, en plus le mix il est mal fait parce que c'est pas le vrai son que t'avais dans
c'est foireux, quoi, forcément.
Il rajoute une piste audio par dessus, bref. Et donc c'est horrible. Donc je t'invite à faire attention à ça, c'est horrible.
D'accord. Bah, j'irai prêter une oreille. Et d'ailleurs c'est marrant parce que j'ai pas pu lire tout l'article parce que j'étais au taf, j'étais entre deux trucs.
Ouais.
Mais dans un site de MMA américain, je crois que c'était Bloody Elbow ou MMA Junkie, je sais plus quel des deux.
Ouais.
Mais il y a un des sites, je trouvais ça assez marrant comme sujet, qui a fait un article sur le groupe, qui a fait la chanson de Néo Metal toute pourrie, qui commence tous les grands événements de l'UFC, la Feel the Pain. Et c'était vachement intéressant. T'avais la photo des mecs, qui avaient vraiment une pure dégaine de groupe de Néo Metal de 98, genre en mode Dreadlock, Pantacourt. du coup, mais bon, faut que je retrouve l'article, faut que je le dise parce que, c'est ouf, ils ont jamais changé, quoi. Ils ont toujours pris ce truc-là, quoi.
Ouais.
Et il y a un moment, il y a un ou deux ans, ils ont essayé d'en faire un remix un peu, genre.
Ouais, un peu, genre, comment ça s'appelle le truc, là, tout, step, là.
Un peu dubstep, ouais, c'est ça. Mais genre, en fait, ils sont revenus au truc néo-metal, que plus personne n'écoute, à part Chuck Tiddle, je pense, tu vois. Mais bref.
Tito Ortiz, d'où il est. Tito Ortiz apparaît dans un clip de Korn.
Sérieux?
Ouais.
Lequel?
T'as jamais vu?
Non.
Je sais plus lequel.
D'accord.
Je sais que c'est à la fin de ce clip. Ils sont tous en mode pote dans un jardin quoi.
Mais c'est
en mode barbecue et tout. Et genre j'ai le plan en tête, mais en gros ils sont tous là, ils ont tous un petit sourire et genre ils se prennent dans les bras et tout. Et il y a Tito Ortiz qui est dans le lot, quoi.
D'accord, mais est-ce que c'était un clip genre vraiment de la grande époque de Korn, années 90 début 2000?
Ouais,
ou...
90, genre
ah ouais.
98, un truc comme ça.
Oh, genre,
c'est un Tito Ortiz hyper jeune, quoi.
Il était même pas spécialement connu à l'époque.
Je sais pas.
Ok.
Mais il est dans un clip de Korn.
Très bon goût.
Voilà.
Bravo Tito.
Et d'ailleurs, c'est Antoine qui m'avait envoyé il y a quelques années une vidéo de Tito Ortiz où il est interviewé et on lui demande quel est ton groupe préféré.
Non, c'est 5 groupes préférés.
C'est 5 groupes préférés.
Il y en a 5.
Alors j'ai oublié les 5.
C'était genre Korn, Eminem, Snoop Dogg, Limp Bizkit et genre Dr. Dre, quoi. Enfin, c'était ce qui se faisait à l'époque. Mais quand t'avais 14 ans, lui, on avait déjà 31, mais bon, c'est pas grave.
Ouais.
Mais du coup, les pires musiques de mecs qui arrivent dans la cage.
Ou les meilleurs. Hein,
ou les meilleurs. Bah, c'est cool. J'ai un de mes favoris, Roger McDonald. C'est cool parce qu'une fois, il est rentré sur Seek and Destroy de Metallica.
Ouais.
Donc bravo, quoi. Bon, le combat d'après, il est rentré sur Tool. Donc ça, c'était un peu plus blason.
Ouais.
Clay Guida, que j'ai déjà entendu rentrer sur le Black Sabbath. Mais t'as pas mal de mecs qui rentrent sur le Black Sabbath.
Ouais.
Et après, en général, ouais, c'est. Ça va du hip-hop tout pourri à la... Alors c'est marrant parce qu'en plus quand c'est des mecs genre d'Europe de l'Est ou des Hollandais, c'est de la dance ou de la house dégueulasse.
Je crois que c'est Overeem qui sort sur le thème du Pride ou qu'il a pas fait forcément à chaque fois, mais je crois qu'il l'a fait une fois.
Crocop l'a fait. Ouais. Overeem, il rentre toujours sur l'espèce de truc techno mais tuning dégueu, quoi. Et d'ailleurs c'est marrant parce que je mettais un combat du Glory avec un combattant hollandais qui s'appelle Michael Dutt.
Ouais.
Et oui, était rentré pour un truc qui était 100% tuning, avec vraiment une bagnole qui démarre sans play, quoi. Waouh, waouh, waouh. Enfin, c'était genre méga beauf, quoi. Mais ouais. Ça, il y a des mecs un peu plus Midwest entre guillemets redneck qui vont rentrer sur de la neo country ignoble, notamment Chad Mendes quand il avait affronté
le mec de Stained là.
Ouais, alors justement, quand il avait fait son combat contre Conor McGregor, c'était tellement un gros truc que chacun avait leur propre groupe en live en fait qui jouait. Conor McGregor, c'était Sinead O'Connor. Ouais. Et lui, c'était le mec de Stained qui est un groupe de néo metal mais infâme qui maintenant s'est reconverti dans le country en solo, qui jouait voilà en solo pendant qu'il rentrait dans la cage. Donc t'as ça, t'as Brock Lesnar qui rentre toujours sur, enfin qui rentrait toujours sur Enter Sandman de Metallica, qui est, moi j'adore les premiers trucs Metallica, j'adore, mais ce morceau il est vraiment, c'est vraiment de la merde. D'accord, il est horrible. Ouais, voilà, donc c'est dur. Truc de ouf, Mirko Crocop qui rentre sur un morceau de Duran Duran, quoi.
Ah ouais.
Duran Duran qui est un des groupes New Wave les plus gays de tous les temps.
Ah, j'ai pas vu ça.
Mais... ouais, c'est, enfin c'est, ouais, donc c'est jamais fameux, quoi. C'est, j'ai jamais été surpris, genre ah putain ça le fait, quoi. Ou très rarement en tout cas.
Ouais, ouais.
Et toi, l'inverse?
Bah justement, je me suis dit ah, il va me poser la question, mais en fait je sais même pas.
De toute façon, je pense qu'on tombe assez d'accord là-dessus. Hein.
Ouais, ouais, on a à peu près les mêmes goûts à ce niveau-là, je pense. Non, il y a pas. Si, il y a un truc qui m'avait marqué, mais c'était juste, En fait, voilà, c'est un combat que j'avais déjà vu, mais j'avais juste vu le combat en lui-même, j'avais pas vu le combat dans l'événement, quoi. Et après, plus tard, je l'ai re-regardé, et c'était Misha Tate contre Ronda Rousey, genre après l'Ultimate Fighter, je crois. Et en fait, tu vois les sorties. C'était à l'époque où Ronda Rousey détruisait tout le monde. C'était genre la tueuse, quoi.
C'est quand c'était genre la meilleure combattante de tous les temps.
Ouais, ouais. Et c'était avant le Fear the Return, là. Et genre, donc tu vois Michel Tate qui sort.
Fear the Return?
Ouais, tu sais, quand ils ont, pour le combat avec Nunes, il y avait toute une promo
sur
le terme Fear the Return. Donc c'était avant tout ça. Et donc Michel Tate, elle sort sur du Katy Perry. En mode, je sais plus, tu sais, en mode, enfin, habillée mignonne, entre guillemets, quoi, tu sais.
En mode girly, quoi.
Girly, voilà, ça que je cherche comme mot. En mode girly et tout. Et tu voyais dans son visage, c'était vraiment girly, quoi. Genre, j'ai confiance en moi, je vais y arriver, yes, allez, c'est bon, ça va le faire. Et donc, bon, voilà, elle sort comme ça, et deux secondes après, tu vois une sorte de psychopathe. Bon, sur Joan Jett, quoi, peu importe.
Ouais. Je trouve ça assez cool d'ailleurs qu'elle rentre sur Joan Jett.
Mais c'était l'attitude qu'elle a, c'est un truc que j'aimais bien aussi, quand même, dans l'espèce d'aura qu'elle pouvait avoir à l'époque. C'était que elle avait hyper confiance en elle, et elle croyait vachement en ses compétences, etc. Mais ça rendait quelque chose quand même de cool, je trouvais, dans le côté badass, quoi. Mmh. Quand tu la voyais sortir, c'était capuche sur la tête, en mode je trace tout droit, je regarde personne, ouais. Je trace, quoi. Je vais me débarrasser de ça, je vais aller défoncer la meuf. Et donc il y avait un contraste, mais tellement ouf, sur ce walkout là entre Misha Tate et Ronda Rousey, que j'ai retenu ça. Mais sinon, après les zik, je t'avoue que souvent je zappe en fait cette partie.
Oui, moi aussi je zappe.
Ça dépend des combats. Genre si c'est vraiment un combat où je me dis, tu vois, où j'ai envie de faire le mec... pseudo-analyse, genre ouais, je vais regarder l'attitude du mec, est-ce qu'il est là en confiance ou pas, ou quoi, machin, je vais regarder le truc. Mais sinon, je zappe, parce que ça prend trop de temps, quoi. Genre, j'accélère jusqu'à. Parce que surtout, si c'est le main event, t'as Bruce Buffer qui fait un speech de 3 quarts d'heure, qui remercie tous les sponsors, qui remercie tous les mecs de la prod, tous les mecs qui sont dans le public, donc je zappe et je mette le combat, quoi. Donc je sais même pas, en fait.
Ouais. Et alors, d'ailleurs, je te pose une question, parce que je suis sûr que tu t'es déjà posé.
Ouais.
Si t'étais combattant du UFC, sur quelle musique tu rentrerais?
Si j'étais content, je rentrerais sur Sick de Slipknot.
Ouais, après, tu serais dans ton, effectivement. Ouais.
Alors, pour l'anecdote, ça va intéresser personne, mais je le dis Antoine, j'aurais pu le dire après en off. On a un pote en commun, je veux dire son nom, Pierre, qui j'ai envoyé une vidéo YouTube de l'album. Non, c'est pas Iowa, mais le premier album de Slipknot.
Il n'y a pas de titre.
Slipknot ou quoi. Et je lui ai envoyé ce lien. En lui disant d'écouter sérieusement le truc, en disant ouais, putain, c'est excellent. Et j'ai senti qu'il avait le doute.
C'est vrai. Il a pas senti l'ironie.
Si je déconnais ou pas, quoi. Et je sentais qu'il voulait pas me vexer en disant c'est de la merde ou pas. Donc il disait bref. Donc j'ai fait cette blague à un pote, quoi.
D'accord. Je savais pas que Pierre était aussi influençable que ça, quoi.
Il a jamais dit qu'il kiffait, parce que je pense qu'il a détesté. Mais il osait, je pense qu'il a pas osé me dire cash, mais tu rigoles ou pas. Bref, ça m'a fait pareil.
Je ne vous félicite pas, Pierre.
Ouais. D'accord. Toi, tu sortirais sur quoi?
Sur
Kitty.
Sur Brakish de Kitty. Sur n'importe quelle chanson de Mudvayne ou de Godsmack. Ouais, alors je me suis déjà posé la question. J'ai un pote d'ailleurs, un pote à nous.
Je pense la nuit quand tu t'as avant de t'endormir, tu dis putain.
C'est ça, ouais. Absolument. Non, moi je rentrerai bien sur 2-3 classiques. Il y a deux trois classiques de la Oi française qui s'y prêtent très bien, ouais. Comme des années d'acier de Comintern Sect, ouais. Ou pour la gloire de Caméra Science. Ouais. Ça, je pense que c'est la chanson parfaite. Si tu veux faire un UFC à Paris et que je serais sur la carte, je rentrerai là-dessus obligatoirement. Quoi.
Ah, j'aimerais bien voir ça, quoi.
Ouais.
La peur dans les yeux.
Ouais, c'est ça. Ouais. Genre, qu'est-ce que je fous là? Heureusement que je touche 5 000 $, quoi.
Et d'ailleurs, en parlant d'argent là, enfin non, même pas en parlant d'argent, le prochain UFC.
Gros UFC.
Gros UFC, voilà, c'est pas en parlant d'argent, en parlant de gros trucs, quoi. Gros UFC.
Ouais, pourquoi d'argent, je sais pas.
Mais... Je sais pas pourquoi j'ai pensé à l'argent. Parce que, ouais, je me disais, quand tu m'as dit avant, ouais, le prochain UFC, j'étais là, ouais, c'est quoi, c'est le 208. En fait, non, c'est le 209. Mais pourquoi j'ai zappé le 208? Parce que le 208, c'était, il y avait rien, quoi.
Rappelle-moi.
Voilà, c'est que tu te souviens pas. C'est Germaine de Randami.
Ah, contre Holly Holm.
Holly Holm.
Bien sûr.
Ce truc, ça m'a pas marqué, donc j'ai pas forcément envie d'y revenir, à moins que t'aies des trucs à dire sur.
Non, juste, moi je fais partie de ceux qui pensent que Anderson Silva n'aurait pas dû gagner son combat, quoi. Que c'est Derek Brunson.
J'ai même pas vu le combat.
C'est Derek,
j'ai vu les critiques, les commentaires, mais j'ai même pas vu le.
Faudrait que je remate, histoire d'être vraiment sûr et certain, mais pour moi ce serait Derek Brunson qui aurait dû remporter le combat.
Parce que le combat, en gros, il s'est passé quoi?
Trois rounds où Derek Brunson.
Rien de décisif, quoi, mais.
Pour moi, paraissait quand même assez dominateur. Il y a des moments où il chopait carrément Anderson Silva en clinch. Ouais. Et il mettait des gros uppercuts dans la gueule,
ouais.
Genre peut-être 3, 4, 5, 6 d'affilée. Genre t'as jamais vu Anderson Silva se faire autant martyriser,
ouais.
C'est arrivé plusieurs fois pendant le combat.
D'accord.
Anderson Silva parfois, donc il gardait à distance. Et il y a des il y a certains moments où il essayait de faire du Anderson Silva de la grande époque, c'est-à-dire genre gesticuler.
Si, j'ai vu qu'il a fait une sorte de délire de capoeira après,
ouais,
il a
voilà.
Fait un high kick ou quoi.
Mais il était clairement plus dedans. Il me paraissait plus lent, plus rouillé en fait.
Ouais.
Donc pour moi, je voyais Derek Brunson. Derek Brunson, Derek Lewis, merde, tout d'un coup j'ai
entendu. Brunson.
Brunson, absolument. Derek Lewis, c'est le poids lourd.
C'était la carte Halifax, là. C'était quoi? Ouais. C'était le Fight Night?
C'était un Fight Night. Ouais. De 105, je crois. Bref. Pour moi, Anderson Silva était perdant. Voilà, c'est surtout le truc que j'ai retenu. Mais le Fight Night à Halifax était pas mal parce que t'avais Johnny Hendricks contre, en point moyen.
Contre Hector Lombard,
voilà. Alors c'est, celui qui a gagné, ça me paraissait pas si évident que ça, mais bon, c'est lui qui a gagné. Et puis il était, contrairement à ses derniers combats en poids welter, il était vraiment pas si nul que ça.
Ouais.
Il y a un moment, il a chopé Hector. Tu l'as vu ou pas?
Non, j'ai pas vu.
Il avait chopé Hector Lombard en clinch et lui a envoyé un gros coup de genou dans la gueule. Hector Lombard ouais. a même pas flanché, quoi. Donc il encaisse quand même bien, quoi. Okay. Ça a vraiment fait un gros clac. Même de ton PC, tu l'entends. Et puis le combat Derek Lewis Travis Brown, tu l'as vu?
Ouais.
Ouais. Ce qui était complètement taré.
Ouais.
Et j'étais limite choqué par l'interview post combat de Derek Lewis.
Parce que là, qu'il en a rien à foutre. Enfin, ouais. Il s'en fout, quoi.
Ah oui, il s'en fout. Alors déjà il y a genre ouais, j'avais pas mal l'estomac, j'avais juste envie de faire caca, bon c'est rigolo, quoi. Mais quand il sort, genre ouais, de toute façon j'étais bien content de lui mettre des droites après qu'il ait pas eu connaissance parce qu'il aime taper ses femmes et tout machin. J'étais genre ouais, putain quand même, faut la sortir celle-là, quoi.
Non,
tu vois.
Déjà, moi ce qui m'a pas choqué en mode choqué, mais ce qui m'a surpris, quoi, c'est ce qui sort des trucs un peu de ouf. Mais il le sort jamais en mode mec vénère ou quoi. Il le sort sur le ton de la conversation, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est même pas genre ouais, ce mec là, rien à foutre de ce mec, je l'ai défoncé, je suis bien content. Non, c'est juste ouais, bah je suis bien content que l'arbitre m'ait pas stoppé parce que il frappe des femmes et il mérite ça, quoi. Il est hyper
il est très factuel.
Très factuel, quoi. Et genre pareil pour son truc d'avoir envie de chier, il a pas. Tu sentais qu'il cherchait pas forcément à être drôle.
Non,
genre, il répond à la question, quoi.
Ouais. Il a sorti la même en conférence de presse après, quoi, tu vois. Il a pas lâché, quoi.
Donc c'est ouf, c'est assez ouf, quoi.
Et d'ailleurs, bah je pense que ce serait cool de faire lui contre Ngannou, j'aimerais bien voir ça, quoi.
Parce que là, Ngannou, il a pas encore de combat.
Non, pas. Bah je pense qu'il devait attendre justement le résultat de ce combat-là.
Parce que je crois que j'avais pas vu de truc, mais j'avais vu des gens qui spéculaient et tout ça, et je sais plus avec qui les gens disaient que ce serait un bon. Ah oui, il y a des gens qui voulaient le mettre contre Ben Rothwell.
Ouais. Pourquoi pas. Ouais.
Mais ça s'est pas fait, je crois. Enfin,
mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui est sûr, ça dépend encore une fois qui l'aura en face, mais le prochain combat de Ngannou. Je pense que ce sera de vrais combats test pour voir si genre vraiment il appartient limite au top 5.
Ouais, c'est clair.
Parce que même si son KO contre Arlovski était vraiment impressionnant en premier round,
ouais.
Bon, faut quand même pas oublier que Arlovski, avec tout le palmarès qu'il a, il est sur la pente descendante et qu'il est vachement en cristal.
Il a de la route quand même.
Ouais, donc il encaisse moins qu'avant, ouais. Mais ça reste quand même vachement impressionnant, c'est sûr. Mais en tout cas, ouais, tous derrière Ngannou, il est trop fort.
Ah, je suis curieux de voir. Après, peut-être que ça pourrait être pas mal, mais je pense que Ngannou contre Derek Lewis, en termes quoi. De athlétisme, ça se dit ça, hein. Enfin de capacité athlétique, quoi. Genre c'est un meilleur athlète, genre il va comment dire tenir plus longtemps le combat que l'autre. Après c'est au niveau des coups, genre Derek Lewis, faut pas qu'il le touche, quoi.
Bien sûr. Donc, c'est parce que je sais pas. Après j'ai pas vu ses combats en amateur, mais ses combats avant l'UFC, on va dire.
Ouais.
C'est, on connaît, enfin, il s'est pris quand même deux trois pains dans la gueule sur ses combats UFC, mais ouais. C'est vrai qu'il a jamais vraiment été mis en danger, il a jamais vraiment été testé, donc c'est ça qui reste à voir, c'est ça qui est intéressant justement, quoi.
Ouais. Non, bah, je suis curieux de voir ça. Moi, j'ai envie de te parler de la 209 là.
Ouais.
Alors, dans quel sens on peut prendre cette carte des combats préliminaires, la main card? Alors, attends, les combats préliminaires, on va les zapper. Alors attends, s'il y a quoi? Bon allez, il y a Marc Godbeer contre Daniel Spitz.
Ah, Marc le dieu d'Abir.
En poids lourd, je ne les connais pas. C'est... Marc Godbeer, j'ai déjà vu, mais j'ai oublié son nom.
Marc Godbeer, moi j'avais vu combattre au Bellator contre Cheick Kongo.
Ouais.
Quand tu es poids lourd au Bellator, c'est pas nécessairement un grand signe de qualité.
Ouais.
Alors après, je crois qu'il est quand même assez jeune, donc il y a peut-être une grande marge de progression, on ne sait pas. Ah, c'est contre Todd Duffy?
Non.
Ah, moi j'ai. Non ? T'as
non,
qui
c'est
toi ?
Contre Daniel Spitz.
D'accord, parce que moi je suis sur. Alors, t'es sur Wikipédia ?
Ouais.
Alors, ok, pour info, moi je suis sur le Wikipédia français de UFC 209.
Ah ouais.
Et mon partenaire Valentin.
Bah, moi je suis bilingue, donc je suis sur l'anglais.
C'est ça, alors attends. Hop, n'oublions pas que je suis un roi du humble brag. Alors voilà, je reviens sur Official Fight Card, voilà. Ah oui, effectivement.
Contre
ouais,
Daniel
d'accord.
Spitz, ouais.
D'accord, autant pour nous. Autant pour moi.
Ah, moi j'ai pas fait d'erreur.
Bon, écoute, on va pas trop s'avancer. Hein. Je pense que toi comme moi, on est un peu largué sur la préliminaire card.
Je t'avoue préliminaire. Que ouais, je sais pas.
Passons à ce qui est vraiment intéressant. C'est une très belle carte principale.
Ouais. Alors, Alistair Overeem, Mark
Hunt. Mark Hunt, putain, alors ça déjà, c'est bien old school comme affiche.
C'est clair.
Moi, je suis un gros fan de Mark Hunt.
Ouais.
Et même si j'ai beaucoup de respect pour Overeem, surtout pour son renouveau qu'il a connu après s'être pris débranlé, après s'être pris genre trois énormes KO d'affilée en ayant raté le dopage, je vais partir sur Mark Hunt, quoi. Mark
ouais.
Hunt, parce que Overeem, il y a quand même un gros souci, c'est qu'il encaisse très très mal. Mark Hunt, il y a un gros avantage, c'est qu'il met tout le monde KO. Bon,
ouais.
Voilà, je pense que la messe est dite.
Bah je te rejoins après donc c'est je sais pas ils ont combattu une fois ou plusieurs fois j'ai pas
je crois qu'ils combattu, je crois qu'ils ont dû combattre qu'une fois au Japon
ouais. C'était Overeem qui a gagné par armbar je crois un truc comme ça enfin une soumission j'oublie ce que c'est ouais enfin alors je sais pas d'un côté Overeem le nouveau Overeem il apprend à être patient tu vois genre Alistair Overeem contre Junior Dos Santos je trouvais qu'il s'était bien démerdé quoi. Après, Mark Hunt, c'est pas le même mec. Ce que je veux dire, c'est que je vois pas Alistair Overeem se foutre trop en danger. Parce que, ouais, j'ai l'impression que ces derniers temps, il est conscient aussi, lui, du fait qu'il encaisse beaucoup moins, quoi. Et donc, je suis plus dans le soutien de Mark Hunt aussi. Mais je me dis qu'il faut qu'il fasse gaffe à ce que Overeem essaie pas de le crever pendant les 3 rounds pour essayer de le pick apart comme disent les Américains quoi.
Surtout que bon Overeem il a affronté un mec au profil similaire en la personne de Roy Nelson.
Ouais.
Un petit gros qui cogne dur, il a très bien combattu, il a gagné par décision unanime.
Ouais.
Donc en théorie rien n'empêche d'établir une stratégie similaire et de gagner quoi mais bon.
C'est clair.
On verra bien. Ensuite, on a Lando Vanata contre David Taimur.
Ouais.
Lando Vanata qui a mis un superbe KO sur John McDessie, qui avait pas mal tourné sur le web.
Ouais.
Je sais pas du tout qui est David Taimur, donc on va partir sur Lando Vanata.
Ouais, bah Lando Vanata, c'est un mec de Jackson, là, Greg Jackson. Moi, j'ai vu ce mec-là contre donc, l'autre, là, McDessie, et contre Tony Ferguson. Et je crois que Tony Ferguson, c'était soit son premier combat à l'UFC, soit un combat en mode, tu sais, pas beaucoup de délai, quoi.
Il avait remplacé un...
Il avait remplacé un mec, ou alors les deux, je sais plus. Et il a perdu le combat contre Ferguson, mais il avait l'air, il a fait un excellent combat quoi. Ce combat, si vous l'avez pas vu, je vous invite à le mater. Le Lando Vanata contre Tony Ferguson, il est impressionnant. Et c'est un mec qui me paraît bien prometteur. Après, j'ai un peu peur qu'il ait le même effet que Gunnar Nelson là, qui arrivait en tant que mec genre ouais, ce mec-là il est trop chaud, il va tout défoncer. Et puis au bout d'un moment, on a vu ses limites. Mais comme je connais pas l'autre, pareil, je vais partir sur lui quoi.
Ça marche. Après, on a le grand début de Rashaan Evans en poids moyen contre Dan Kelly.
Ouais, j'ai pas suivi lui, donc du coup, il a réussi à avoir une licence ou quoi.
Ouais, c'était très compliqué. Il y a eu des blessures. Enfin, il y a eu annuler un combat contre Tim Kennedy, je crois, au dernier moment.
Ouais.
Dan Kelly, je l'ai pas vu combattre, mais selon sa page Wikipédia, il a quand même un bon pédigré.
C'est un Australien.
C'est un Australien et qui, je crois qu'il y a aucune défaite ou alors une défaite. Tu peux me confirmer?
Ouais, il a une défaite contre Sam Alvey.
Ouais.
Et sinon, bah, c'est ça, son palmarès, non. C'est 12-1.
Donc, je pense, son dernier combat, c'était contre eux.
Chris Camozzi.
D'accord. Je pense que c'est un mec assez solide. Rashad Evans, c'est un mec qui arrive sur toute fin de sa carrière.
C'est un judoka, pardon, Dan Kelly. Il a fait les Jeux Olympiques, genre, 4 fois.
Ah ouais?
Ouais. Mais après, il a fait genre, ouais, bon, il a fait 9e place, 7e place, 21e place, 17e place. Mais bon, quand même, pour ramener ton cul aux Jeux Olympiques, t'as quand même un petit niveau, quoi.
Ouais, c'est clair.
Même si t'as pas de médaille.
Alors là, je suis dans le hasard total, mais je pense, moi, je partirais sur Dan Kelly parce que il est peut-être moins. Il a quel âge, tu peux me le dire?
Dan Kelly?
Ouais.
Dan Kelly, il a 39 ans.
Ah ouais, d'accord, ouais, il est pas si jeune que ça. Ouais. Ok. D'accord. J'ai pas cette excuse. Mais je sais pas, Rashad Evans, il était quand même. Beaucoup, il a bien galéré sur ses derniers combats. Ouais. Ça fait un bail, hein, ça fait quelques années déjà qu'il est quand même beaucoup moins impressionnant qu'avant.
C'est clair. Donc, bah, moi j'ai l'impression que depuis le combat contre John Jones.
Ouais, c'est vrai, hein, ouais.
Parce qu'il a pas combattu beaucoup. Attends, j'essaie de trouver son palmarès ou quoi pour me souvenir. Mais depuis qu'il a perdu contre John Jones, il a perdu contre Little Nug. Après, il y a le combat contre Dan Anderson qui était hyper chiant, il se passait rien pendant ce combat, je sais pas si tu l'as vu.
Le combat contre Little Nug était infâme aussi.
Ouais. Contre Dan Anderson, il a gagné une décision partagée, mais le combat était trop relou. Après, il a déboîté Chelsonen.
Mmh,
et tout le monde se disait, putain, c'est le retour de Rashad Evans, mais après, il a pas combattu pendant 2 ans.
Ah oui, oui, c'est ça. Ouais.
Et il est revenu contre Ryan Bader, il s'est fait dominer. Et contre Glover Teixeira, il s'est fait mettre KO. Mmh. Donc, je sais pas. En fait, c'est un mec qui avait, je pense, un gros, gros potentiel, mais qui a dû laisser passer sa chance, quoi.
Qui était champion, quand même, hein.
Ouais.
Mais qui a, je crois qu'il a pas défendu sa ceinture une seule fois.
Il l'a défendu contre Machida, il l'a perdu direct. Ouais. Et, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je pense que c'est un mec qui aurait pu être très très bon s'il avait eu le temps de capitaliser sur la période où il était genre, en forme physique, au plus haut de sa forme physique, quoi. Mais surtout, c'est un mec que j'ai vu, des interviews ou des articles sur lui, et c'est un mec qui de lui-même a plusieurs fois genre déjà songé à arrêter, qui parle relativement ouvertement du fait que genre il manque de confiance en lui, qu'il sent que son corps fonctionne pas comme avant. Donc je suis pas du tout expert et tout, mais je me dis qu'un mec qui réfléchit comme ça, il a quand même moins la tête dedans que, tu vois, c'est pas le même Rashad Evans qui a battu Forrest Griffin à l'époque, quoi. Donc je sais pas, mais à mon avis, et puis Dan Kelly, je le connais pas, donc je me prononce pas, moi j'en sais rien, en fait.
D'accord. Ensuite, là on arrive sur le combat intéressant, Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson. Moi c'est du 100% Khabib.
100% Khabib.
Ouais.
Bah, moi j'aime bien Khabib pour le côté, tu vois, j'aime bien le délire d'avoir un mec, tu sais, entre guillemets, invincible, quoi, tu sais, l'espèce de mec invulnérable, j'aime bien. Mais après, le truc avec Khabib, honnêtement, c'est quand tu regardes son... Alors, il est invaincu, hein, on est d'accord, mais quand tu regardes ses adversaires qu'il a eu au fil des ans, au final, il n'y a pas beaucoup de mecs de top, 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 top niveau, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Bah, il y a quand même eu Michael Johnson.
Ah, il y a eu Michael Johnson, il y a eu Rafael Dos Anjos.
Bah oui, il y a Rafael Dos Anjos, il a massacré, quoi.
Il les a massacrés, mais ce que je veux dire, c'est par rapport au level de la... Tu vois, si je devais comparer ça à la division des poids, quoi, featherweight, c'est ça?
Qui est en dessous?
Ouais.
Ouais.
Où tu vois un mec comme Max Holloway. Ça fait je sais pas combien de temps que le mec il se bat que contre les mecs qui sont dans le top 5, top machin. Alors que Khabib, lui, en gros, quand je regarde depuis qu'il est dans l'UFC, le mec, alors il est dominant. Alors ce qui est impressionnant chez lui, c'est qu'il est vraiment dominant, quoi. Mais à part Dos Anjos et Michael Johnson, il y a pas Tilly, il était hyper bon aussi. Mais à part ces trois là, il n'y a pas non plus la race de mec, et il y a quand même eu un gros gap de trucs, tu vois. Alors il a combattu...
Il y a eu 2 ans, je crois.
Il y a eu 2 ans d'inactivité. Quand il est revenu, il s'est battu contre un mec qui débutait sa carrière. Donc non, je le trouve impressionnant, mais je suis quand même curieux de... Tu vois, c'est comme à l'époque, même si son ascension a été beaucoup plus rapide, mais un mec comme Connor, tout le monde était là genre, ouais, j'attends qu'il soit testé par un vrai mec. Et donc Khabib, j'ai une petite réserve là-dessus, même s'il a l'air de déboîter absolument tout le monde, quoi.
Ouais, c'est après, comme d'autres gens ont fait remarquer, son combat contre Michael Johnson, le début a pas été évident, quoi. Il s'est pris 2-3 bonnes pêches dans la tête. Ouais. Si je pense que s'il fait pas gaffe, et là il affronte Tony Ferguson, et s'il bat Tony Ferguson, après ce sera Connor McGregor, donc... Bah, de toute façon, il doit le savoir, mais ça, je pense que son point faible pêche ici, quoi.
Ouais.
À partir du moment où il attrape le mec, c'est fini. Mais
et après, Tony Ferguson au sol, je sais pas. Je suis pas assez. je connais rien au sol en tant que pratiquant ou quoi. C'est une autre langue, c'est extraterrestre pour moi, donc je sais pas. J'arrive pas du tout à visualiser le. Est-ce que Khabib il est capable de faire exactement la même chose qu'il fait à tout le monde à Tony Ferguson? Parce que Tony Ferguson il est vachement. Il fait des trucs hyper bizarres en fait. Genre il se roule par terre dans tous les sens, il fait des trucs hyper chelous qui sont pas conventionnels. Donc je me pose la question, même si ça va au sol, je pense que ça ira au sol. En gros, si ça reste debout, j'ai l'impression quand même que Tony Ferguson, il a quand même plus d'outils. Et si ça va au sol, je suis curieux du grappling et puis des soumissions que peut lâcher Ferguson. Bon, je pense Khabib, j'aimerais bien que ce soit Khabib pour l'histoire, mais quand même, je me méfie bien comme il faut de Tony Ferguson.
D'accord, ok. Ouais. Ok, et enfin, Tyrone Woodley contre Stephen Thompson 2. Alors déjà moi je comprends pas pourquoi Tyrone Woodley a pas été vraiment déclaré gagnant sur son premier combat, juste pour le simple fait que s'il avait besoin d'un truc pour se les partager, c'est le fait que il est chopé en Woodley a chopé Stephen Thompson en guillotine et tenu comme ça pendant peut-être je sais pas dans mes souvenirs peut-être 2 minutes, enfin très longtemps quoi. S'ils avaient du mal à se départager, si les juges avaient eu du mal à départager, ils auraient dû se baser là-dessus quoi. Bon bref. Maintenant Stephen Thompson, même s'il a des très beaux KO à son actif et qu'il est très très impressionnant, il n'a pas l'agressivité et la puissance de Woodley.
Ouais.
Et pour moi, je pense que c'est ça qui fera la différence. Quoi. Je pense que Woodley arrivera à le niquer comme ça. Quoi. Et je pense que ça finira par un KO, un truc du genre.
Ouais. Avant le premier combat, j'étais là, genre, ouais, il a quand même une bonne chance, Wonderboy, là. Mais depuis que j'ai vu l'autre combat. En fait, en gros, en comparant avec le combat qu'on a déjà vu, je me dis que Woodley, il a plus une marge de progression, enfin par rapport aux outils qu'il a, aux choses qu'il sait faire. Il y a plein de choses qu'il a pas fait dans le premier combat qu'il peut faire maintenant. Alors que Stephen Thompson, j'ai l'impression qu'il a pas tout montré, mais que qu'en gros, il a montré qu'il peut se faire prendre au sol, qu'il peut se faire prendre dans une guillotine, qu'il peut se faire connecter et être bien en galère, parce qu'à un moment donné, il s'est pris des méchants coups. Il était tout. Pas KO, mais presque. Après, gros respect sur le fait d'avoir tenu et d'avoir réussi à tenir à tous les rounds, quoi. Mais ouais, je pense que c'est. Tyrone Woodley, déjà, il a même pas essayé de le mettre au sol trop de fois que ça. Donc je pense qu'il a quand même une très bonne chance, Tyrone Woodley, quoi.
Et bah ouais, c'est clair. Ouais. Moi, je pars sur Woodley aussi.
Tu pars sur Woodley ?
Ouais, ouais. Et du coup, je te propose qu'on s'arrête ça pour ce soir. C'était un bon petit podcast bien condensé comme il faut.
Ouais, carrément.
J'espère que vous avez apprécié. Alors, on va vous redonner un peu des adresses où vous pouvez nous trouver sur Internet, notamment Twitter, @PSLT_podcast, Tumblr, PSLT-podcast.tumblr.com. Et encore une fois, on a une adresse email, pointsuratable.au@gmail.com, tu confirmes ?
Je confirme.
Tu confirmes, ouais.
Ouais,
et voilà. Et franchement, donc par ces trois moyens là, hein, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter.
Sinon il reste Google.
Sinon il reste Google, absolument, ouais. Mais on sera un plaisir de vous répondre. On reste en contact, tes petits gars, et puis pour les prochains numéros, si tout va bien, peut-être qu'on aura des gens interviewés, on essaiera d'expandre un petit peu le truc, on verra.
On va essayer d'augmenter la fréquence.
Voilà, on essaiera
d'augmenter. Si Antoine veut, hein, bah, je sais pas.
Je trouve qu'en plus en termes de fréquence, on sort déjà pas si mal que ça, quoi.
Ouais, non, ça va, c'est correct.
Voilà. Bon, bah écoutez, bonne soirée, bonne journée, bonne tout ce que vous voulez, et puis à plus.
Humble
bisous.
Brag, humble brag.
Humble brag.